partager le savoir. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Axel Mauger.
Le français dans les pays émergents. Pendant qu'à Paris, certains responsables hésitent à accorder quelques crédits supplémentaires en faveur de la culture française, dans le monde, les chiffres très souvent positifs et les faits réjouissants en faveur de notre langue parlent d'eux-mêmes. Dans l'Hexagone, parfois un peu trop éloigné de la vie bouillonnante, on ergote. Ailleurs, en agissant sur le terrain, on obtient de beaux résultats. Les gâtés que nous sommes en général se plaignent, tandis que ceux qui ont vraiment besoin de progresser font tout pour apprendre, réussir et aller de l'avant. Aujourd'hui comme hier, toujours au cœur du rayonnement du français et du dialogue des cultures, l'action de l'Alliance française est incontournable, notamment dans les principaux pays émergents. Pour mémoire, il existe 1 000 000 d'alliances dans 137 pays. Chaque année, 6 millions de personnes assistent aux manifestations culturelles proposées. C'est la première école de langue au monde, servie par 12 000 salariés et 10 000 bénévoles. Avec talent, générosité et ouverture, les alliances enseignent notre langue dans le monde à 500 000 personnes. Un peu plus d'un quart de ces étudiants suivent des cours dans 6 grands pays en pleine évolution. 5 d'entre eux sont d'ailleurs membres des BRICS. Il est intéressant de constater que grâce aux alliances, l'Afrique du Sud renoue avec son lointain passé en accueillant en 2010 4377 élèves. Le Brésil, si dynamique et francophile, lui, 36 000. La Chine, qui continue de se mondialiser, 26 000. L'Inde, plus discrète en incluant le Népal, lui aussi 26 000. Le Mexique, toujours passionné par le dialogue des cultures, 28 000. Quant aux antennes russes, en incluant pour la bonne cause l'Ukraine indépendante, elles savent déjà plaire à 6 800 étudiants. Dans ces 6 pays, les possibilités créatrices sont très importantes. Cet engagement fort des alliances, délibérément tourné vers l'avenir en privilégiant l'approche stratégique, est plus que prometteur. Selon le Fonds monétaire international, les BRICS, c'est-à-dire le Brésil, la Russie, etc., etc., pèseront 61% de la croissance mondiale en 2014, c'est-à-dire demain. Présentons encore quelques éléments statistiques pour dévoiler que l'ensemble de l'Amérique latine, laquelle n'est jamais assez courtisée par notre action diplomatique, reçoit elle aussi le concours très apprécié des alliances. Dans 8 des principaux pays d'Amérique latine, dont le Mexique et le Brésil déjà cités, qui font partie des BRICS, elles forment environ 150 000 étudiants. Il suffit d'additionner le total des élèves formés dans les 6 grands pays émergents que nous venons de citer et celui des 8 pays d'Amérique latine, en soustrayant bien sûr les chiffres du Mexique et du Brésil pour ne pas les compter deux fois, et dans les BRICS et dans l'Amérique latine, pour obtenir un résultat final de près de 280 000 étudiants dans seulement 12 pays. L'Alliance française, qui est présente dans 137 pays, a compris que ces 12 pays pesé énormément dans le monde grâce à leur démographie et à leur croissance. En vérité, cet ensemble accueille la moitié de l'humanité, c'est-à-dire ces 12 pays accueillent la moitié de l'humanité. C'est plongé au cœur de cette nouvelle réalité effervescente, évolutive, complexe, qu'il m'est arrivé d'entendre certaines voix déplorer que la place du français était quasi inexistante en Inde. Comment peut-on être aussi ignorant? Venons-en aux faits. L'Inde compte 2 langues officielles, l'hindi et l'anglais, et 18 langues nationales. Au cœur de cet ensemble, le français est enseigné comme 4e langue, mais précisons-le, comme première langue étrangère, et ce à tous les niveaux. Il est même obligatoire dans les instituts d'hôtellerie et de tourisme. Le nombre d'élèves qui apprennent le français dans les cycles d'enseignement primaire et secondaire s'élève au moins à 300 000. Ils profitent des connaissances de près de 4 000 professeurs. Dans l'enseignement supérieur, pas moins de 500 professeurs forment au bas mot 60 000 étudiants. À ce noyau dur, il faut ajouter les 26 000 étudiants des 16 alliances installées en Inde, sans oublier celle, il y en a une seule, qui œuvre au Népal. Outre la francophonie résiduelle qui perdure à Pondichéry, en Inde, le français est en train de s'adapter à de nouvelles demandes en provenance à la fois du public comme des entreprises. Par exemple, le réseau des Alliances a ouvert des centres de formation pour les professeurs en 2009 à Delhi, en 2010 à Madras. Ces établissements favorisent bon nombre d'actions culturelles en organisant des opérations bien ciblées, comme le festival Bonjour India, qui a circulé avec un très grand succès de janvier 2009 à décembre 2010. Le réseau, qui est en pleine mutation, s'ingénie à moderniser ses sites internet, à développer l'enseignement en ligne, à s'ouvrir à la coopération décentralisée avec le soutien de la région Pays de la Loire depuis 2008 et à encourager les étudiants indiens à partir en France grâce à un partenariat fécond avec Campus France. Les inscriptions ont été multipliées par 3 ces dernières années. Tout de même. Bref, en Inde, le français se muscle, répond à une partie de la demande. Il a visiblement devant lui un avenir plein de promesses, à condition de trouver les fonds nécessaires pour se moderniser et former davantage d'enseignants. Restons en Asie. Prenons à présent la direction de la Chine, l'autre pays prépondérant de la région qui connaît un développement économique sans précédent. Malgré les bouleversements politiques énormes qui ont eu lieu, entre autres depuis 70 ans, même dans les moments les plus difficiles, un petit groupe de lettrés a réussi à sauvegarder de précieux contacts avec la France. Quelques noms restent emblématiques de cette passion. Chang Cheng, 1899-1996, auteur d'un récit autobiographique très émouvant, « Ma mère », préfacé en son temps par Paul Valéry. On peut citer encore Pakin ou Dai Wangshu ou Latakang, des classiques talentueux. Depuis la reprise des relations officielles avec la France, des auteurs contemporains ont pris la relève de ses maîtres. Il faut citer au moins la romancière Cho Ching, auteur de « Le palanquin des larmes » 1976. D'autres l'ont suivi comme Chan Sha et Ying Shen. Au cours de la dernière décennie, d'autres noms ont donné à la francophonie chinoise une réelle plénitude. Parmi eux, une figure se détache. Il s'agit du poète François Cheng, lequel a été reçu à l'Académie française en juin 2002. Comme vous l'avez compris, l'Alliance française revient de loin en Chine. Alors qu'au début du XXe siècle, des comités s'étaient formés dans plusieurs villes, à la fin des années 40, avec la montée révolutionnaire, le réseau disparaît du pays. Le retour ne se fait qu'en 1953, avec la création de l'Alliance de Hong Kong. En 1980, Macao accueille à son tour une antenne. Dans les deux cas, le succès dépasse les espérances. En 1989, par souci d'ouverture, les autorités chinoises décident d'élargir le système d'éducation en favorisant des partenariats avec l'étranger. Depuis cette date, en à peine plus de 20 ans, les 15 alliances françaises créées de toutes pièces accueillent plus de 26 000 étudiants. Elles connaissent tout un succès sans précédent et se développent à plein régime. Le réseau a été notamment un acteur majeur de l'année de la Chine en France, comme il l'est de la semaine francophone fêtée chaque année depuis 2003. En 2010, lors de la grandiose exposition de Shanghai, le pavillon français le plus visité après celui de la Chine, ce n'est pas rien, a attiré un nombre considérable de visiteurs, preuve s'il en fallait une, du très vif intérêt pour notre culture. Dans toute la Chine, au moins 200 établissements enseignent aujourd'hui le français. Dans le cadre strictement universitaire, 86 départements de français proposent d'apprendre notre langue en 2010, contre 30 en 2002. Signe fort de cette montée en puissance, les experts linguistes venus de France étaient 44 en 1999, 140 en 2004, plus de 300 en 2010. En 2011, 70 000 Chinois apprennent le français à l'université. Tous ces étudiants bénéficient d'un corps professoral d'environ 700 enseignants. L'évolution est donc plus que positive, même si les classes sont bien chargées. Dans son réseau fort, avons-nous dit, de 15 implantations, l'Alliance emploie 275 professeurs. Si les Chinois se passionnent pour la langue et la culture française, l'une des grandes cultures occidentales, la réciproque est tout aussi vraie. Preuve, s'il en fallait une, des immenses possibilités du dialogue des cultures entre nos deux pays. Quittons à présent l'Asie pour nous intéresser à ce qui se passe sur le continent africain. destination l'Afrique du Sud, qui vient de rejoindre le club politique des pays émergents, ce qu'on appelle les BRICS. Comme avec tant de lieux de notre planète, la France a eu des liens particuliers avec ce pays, jadis si lointain, grâce notamment aux 178 familles protestantes venues s'y installer de 1688 à 1691, au XVIIe siècle. Un bel acte fondateur de nos relations. Munis de leurs connaissances et de leur savoir-faire, ce petit groupe de Français et de Françaises a été le premier à développer l'agriculture et la viticulture, si bien qu'au cours du XVIIIe siècle, ils s'enrichirent. Aujourd'hui, dans un contexte très différent, 20% des Afrikaners portent encore des noms français tels Duplessis, De Villiers, Dutoit, Joubert, Malan, Terre Blanche ou Marais. Certains de ces patronymes ont subi une vraie mutation. Par exemple, Leclerc est devenu De Clercq. La persistance revendiquée de cette lointaine influence se retrouve dans l'abondance des noms français, aussi bien dans la politique, la finance que dans un sport très apprécié, le rugby. Même si la communauté française installée récemment ne dépasse guère les 10 000 personnes, il s'agit d'une population jeune, dynamique, très entreprenante. C'est à partir de l'an 2000 que l'on a assisté à une demande appuyée de cours de français en Afrique du Sud. Les professeurs des alliances se sont mis naturellement à enseigner dans de nombreuses entreprises et administrations. Ces sociétés ont en effet réalisé qu'elles avaient besoin du français pour multiplier les liens commerciaux avec l'Afrique francophone. Dès cette période, les citoyens noirs, jusque-là absents des alliances, les ont investis, forts de leur nouveau statut économique, si bien qu'ils représentent à présent une bonne moitié des inscrits. Les 46 alliances installées dans cette vaste région se partagent 4377 étudiants, nés en 2010, souvent épaulés par des volontaires du progrès venus de l'île de la Réunion. Leur présence permet de renforcer les liens avec la région très francophone de l'océan Indien. Les possibilités pour l'avenir sont très intéressantes. Dans le domaine culturel, en plus des principales manifestations qui ont eu lieu pour promouvoir la francophonie, les alliances organisent des tournées très appréciées pour chaque lauréat du prix Gérard Sekoto, récompensant un jeune artiste sud-africain. En outre, la plupart des antennes organisent des ciné-clubs mettant en valeur la production française. En 2009, elles ont notamment assuré la projection du film « Home » de Yann Arthus-Bertrand, illustrant ainsi l'intérêt du public pour les enjeux planétaires. Plusieurs projets en cours impliquent des créateurs locaux. C'est ainsi que des concerts hebdomadaires se tiennent dans la ville du Cap et que des lectures de contes bilingues ou des discussions appelées « blablabla » accueille à Johannesburg un public très divers. Compte tenu de la position géographique de leur pays, des diplomates sud-africains se tournent avec intérêt vers la langue française. Le porte-parole du gouvernement a un jour déclaré que, je cite, « vu le rôle que nous jouons en Afrique, il faut connaître le français ». À la suite de cette déclaration réaliste, plusieurs ministres ont aussitôt sollicité l'aide de l'Alliance française aux responsables locaux d'accompagner au mieux cette demande en faveur du français qui est, comme on vient de le constater, loin d'être négligeable, prête à évoluer encore plus positivement à condition d'y consacrer des moyens supplémentaires. L'intégration de l'Afrique du Sud au sein du club politique des pays émergents, les BRICS, n'est pas sans arrière-pensée au regard de l'actuelle course aux minerais dont les pays émergents sont gourmands. L'Afrique du Sud dispose entre autres de 80% des réserves mondiales de platine. En 2009, la Chine est devenue son premier partenaire commercial. Après cette escale africaine prometteuse, allons découvrir d'autres terres dynamiques situées, celles-là, en Amérique latine, cap d'abord sur le Mexique. Une première constatation saute aux yeux. Le réseau des alliances françaises y est riche en milliers d'étudiants. 27 alliances reçoivent en effet 28 000 étudiants au Mexique. Le ratio est plus que solide. Ces chiffres consistants sont le résultat de relations privilégiées que les deux pays entretiennent depuis toujours. Le souvenir très vif en France d'Octavio Paz, de Carlos Fuentes, de Rufino Tamayo et de tant d'autres poètes romanciers et peintres explique une partie de cette fascination mutuelle. Dans les grandes métropoles mexicaines, comme dans les villes plus modestes, les alliances sont des partenaires très appréciés des institutions culturelles ou universitaires et des festivals mexicains. C'est ainsi que la Nuit des Étoiles, projet astronomico-artistique initié en 2009 en collaboration avec l'Université nationale autonome du Mexique, s'appuie sur le réseau pour organiser des séances d'observation ayant lieu au cœur des grands sites archéologiques. De même, l'Alliance a organisé de main de maître le tour du ciné français, qui aura accueilli 140 000 spectateurs en 2009-2010. Partout au Mexique, le réseau est à l'origine d'échanges féconds, novateurs et fraternels. À Monterrey, on a récemment fêté avec un vif succès la création française. À Guadalajara, on a proposé de nombreux films. La ville de Mérida est devenue le point d'appui des relations entre la région Pays de Loire et l'État du Yucatan. En 2011, un seul bémol est de taille, l'annulation de l'année du Mexique. En France, à la suite de la triste affaire Florence Cassez, il faut espérer que la vieille, riche et stimulante amitié franco-mexicaine surmontera dès que possible, et le plus vite possible, une impasse très peu culturelle. Il est bien triste que la culture soit ainsi prise en otage. Plus bas, sur ce continent si francophile, les relations entre le Brésil et la France sont plus que solides. 39 alliances et 550 professeurs accueillent 36 000 étudiants. Un véritable record, puisque ce grand pays accueille le premier réseau des alliances dans le monde. On ne sait pas toujours que l'antenne de Rio a ouvert ses portes 2 ans à peine après la création de celle de Paris, qui eut lieu en 1883. Tant et si bien qu'elle fait partie du patrimoine culturel et de l'imaginaire collectif du Brésil depuis 1885, tout un bail, mieux une entente, un partage. Dans un tel contexte, vu l'immensité du territoire brésilien, les nouvelles technologies offrent de nombreuses possibilités d'évolution. La création d'espaces de dialogue plus agréables, plus modernes, plus conviviaux et l'ouverture récente de nouveaux centres témoignent d'un dynamisme à l'image de ce pays en pleine croissance. De l'agrandissement de la maison de Belém ou de Recife à l'inauguration de la 10e filiale de Rio, de la mise en place d'un laboratoire multimédia à Manaus et d'un centre franco-allemand à Niterói, les initiatives, qu'elles soient immobilières ou tournées vers d'autres projets souvent très novateurs, ne manquent pas. L'année de la France, célébrée en 2009, on s'en souvient, dans bien des foyers, a permis de décentraliser, d'énumérer, d'adapter l'action culturelle dans tout le pays, de Manaus à Porto Alegre et de Brasilia à São Luís. Lors de cette célébration, l'Alliance française a retenu 2 axes. Le premier concerne l'univers des cultures urbaines, le second la relation du Brésil avec l'Afrique. Quant à l'avenir, il s'annonce plus que prometteur en événements à partager puisque l'organisation de la Coupe du Monde en 2014 puis celle des Jeux Olympiques en 2016 seront de nouvelles occasions de renforcer les liens historiques et affectifs entre nos deux pays. Cette stratégie créatrice des pays émergents ne devrait pas poser trop de problèmes à la diplomatie française qui s'est engagée avec crédibilité pour la réforme de la gouvernance mondiale. La France entretient d'ailleurs avec chacun de ses pays d'excellentes relations. Après ces incursions trop courtes, mais fascinant dans les terres latino-américaines, revenons en Europe et dirigeons-nous vers la Russie. Le français, en dépit d'une histoire plus que tumultueuse, y garde des amitiés profondes et indéfectibles. N'oublions pas de saluer ici même brièvement un grand témoin généreux qui s'appelle Andrei Makine. En Russie, 11 alliances drainent 4800 étudiants, tandis qu'en Ukraine, pays devenu indépendant, 9 alliances en train de se solidifier attirent déjà 2000 étudiants. Dans cette vaste région, apprécié du regretté Maurice Druon, de l'historienne Hélène Carrère-Dancausse et de feu le romancier Henri Troya, les possibilités sont immenses. En 2010, l'année France-Russie a permis non seulement de consolider les relations institutionnelles existant dans le domaine éducatif, universitaire et culturel, mais aussi de développer des projets inédits et d'élargir de nouveaux partenariats du Don à la Volga, à l'Oural, à la Sibérie et jusqu'en Extrême-Orient. Plusieurs événements musicaux qualitatifs ont été récemment proposés dans le cadre de l'alliance de Samara et de celle de Rostov-sur-le-Don. En juin 2010, un événement de taille a eu lieu. Le train Blaise Sandrars est allé jusqu'à Novosibirsk en Sibérie par le Transsibérien avec à son bord plusieurs écrivains français. Un tel déplacement a permis des rencontres marquantes. Autre événement de poids, cette fois à Vladivostok, où l'Alliance a présenté l'exposition Primory et les pionniers français. Bel hommage, entre autres, au fameux explorateur Lapérouse, venu jusqu'ici en 1787, et aux pères jésuites, lesquels ont dessiné, précisons-le, les premières cartes de la région. En Ukraine, les alliances sont en pleine professionnalisation. Elles sont en train de devenir des lieux d'apprentissage moderne et compétitif. Devant tant de réalisations et d'événements réussis dans quelques-uns des principaux pays émergents, avec, ne cessons pas de le dire, peu de moyens et énormément de réalisations et d'enthousiasme, on peut espérer que Xavier Darcos, devenu le président de l'Institut français, le nouvel organisme culturel unificateur dépendant du Quai d'Orsay, répondra dans la mesure du possible à une demande en pleine croissance en faveur de notre langue. Aussi bien dans la mode, la danse que l'architecture, on le sait, les créateurs français sont des modèles exceptionnels. L'œuvre de nos meilleurs écrivains, comme nos films les plus marquants, sont également fort appréciés dans le monde. Quelques-unes de nos faiblesses à soutenir notre expansion culturelle généreuse viennent certainement d'un manque de contact fécond entre l'université et l'industrie. Il est plus que temps de relever un tel défi, de persuader nos grands patrons de s'intéresser davantage aux mille et une possibilités de la culture. Ils auraient intérêt à écouter Andrei Makine, qui dans un de ses livres note que la France, je cite, pèse encore dans le monde grâce à cet héritage d'idées que les nations associent à ce pays, à sa vocation surnaturelle, clamée par Georges Bernanos. Pour continuer à aller de l'avant, suivons l'exemplaire des marches de l'Alliance française, un excellent guide en la matière. Inspirons-nous de ses choix comme de ses actions généreuses. Il est inadmissible que certains de nos responsables continuent de feindre d'ignorer l'immense intérêt mondial qui existe un peu partout pour la culture française et le dialogue des cultures. Dans mon nouveau livre qui s'intitule « Le privilège et le rayonnement du français dans le monde » qui doit paraître à la fin de l'été 2011, j'insiste sur le fait que si nous ne progressons pas plus vite à stimuler le dialogue entre les cultures, c'est parce que nous n'offrons pas assez de bonnes stratégies. Pourquoi certains politiques refusent-ils de parier sur des stratégies gagnantes ? À nous, militants du dialogue des cultures en France et dans le monde, à Xavier Darcos et à d'autres passionnés, de penser le futur, de proposer des stratégies encore plus novatrices. Dans le contexte actuel, l'Alliance française est un laboratoire d'idées et de réalisations. Des crédits même restreints doivent être débloqués et injectés aux meilleurs endroits. L'usage bien ciblé des nouvelles technologies doit également permettre un bond en avant à condition que les contenus tiennent la route. Comment créer des passerelles très solides entre le monde du livre et des nouvelles technologies, entre les diverses générations, pour accompagner au maximum la jeunesse avide de découvertes. Dans certains propos tenus récemment, Xavier Darcos a raison d'insister sur l'importance des hiérarchies, des distinctions, des projets qui méritent d'être défendus contrairement à d'autres. Tout en effet n'est pas culture. Il n'y a pas à proprement parler de culture monde. Cette réalité est trop vaste, trop floue. Qui trop embrasse mal étreint, dit avec raison le dicton. En revanche, il existe de multiples cultures qui appartiennent à notre univers. La culture est toujours quelque chose de concret. Elle s'inscrit dans un territoire propre, ce qui ne l'empêche en rien de communiquer, de partager, de s'enrichir, de donner, de recevoir, de créer, de profiter de nombreuses métamorphoses. Nul doute que les pays émergents sont de véritables laboratoires modernes qui permettent à notre langue et à d'autres langues, à notre culture et à d'autres cultures, de prendre le pouls de nouveaux pans de vie en train de s'épanouir. Dialoguer en profondeur avec les autres est une promesse d'enrichissement multiple, avec comme prime un vrai partage au profit de toutes les parties. Ce partage, les 500 000 étudiants des alliances françaises, pour ne citer qu'eux, l'apprécient au plus haut point. Ils nous montrent d'autres chemins. Ils viennent vers nous, à nous de nous intéresser à leur parcours multiple et fondateur. Je vous remercie, chers auditeurs.